Si vous avez déjà regardé un tout petit peu de sport, voici une règle pas toujours assumée, mais constamment vérifiée. Avoir les meilleurs joueurs dans la même équipe ne signifie pas forcément gagner. Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser exactement à ça, la collaboration, et notamment à la question « qu'est-ce qui fait la force et la qualité d'une bonne équipe ?» Parce qu'on ne veut pas simplement lever des leaders, on ne veut pas simplement organiser des équipes efficaces, on veut aussi maîtriser l'art de la collaboration de façon à durer dans le temps. Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Leadership. Avant d'aller de l'avant, j'ai juste envie de dire merci à tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont interagi avec nous. Franchement, beaucoup de love sur vous. Honnêtement, cette saison, elle est assez challengeante pour moi en particulier parce que je ne suis pas toujours le plus à l'aise et ce n'est pas le plus simple pour moi de faire juste des moments frontaux comme ça où je suis seul. J'aimais bien avoir des hosts et j'espère que d'ici la fin de la saison, vous aurez en tout cas un ou deux épisodes avec d'autres voix que la mienne. Mais voilà, on a de la joie, c'est un privilège, c'est vraiment énorme de pouvoir faire ça. Donc merci à vous tous qui réagissez, partagez, interagissez avec nous. D'ailleurs, il paraît que certains nous écoutent pas seulement depuis la Suisse, là où moi je fais ce podcast, mais pour plein de raisons, vous êtes ailleurs dans le monde. Alors, pour le fun, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, Instagram en particulier, et puis de mettre sur cet épisode un petit drapeau depuis où est-ce que vous écoutez cet épisode. Peut-être parce que vous vivez à l'étranger, mais vous parlez français. Peut-être parce que vous êtes en vacances ou en transition ou dans un aéroport. Ça m'arrive tellement d'écouter les podcasts depuis un aéroport. Ou simplement parce que vous êtes pour un semestre ou pour une saison dans un autre pays que la Suisse. Écrivez-nous, mettez-nous un petit drapeau de là depuis où vous écoutez ce podcast. Et pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, juste bienvenue, merci d'être là. Je m'appelle Yves et le but de ce podcast, c'est vraiment de parler de leadership avec une perspective chrétienne. Indépendamment de vos convictions, je suis convaincu que vous allez trouver du contenu intéressant et pertinent. Et moi, je fais le maximum pour honorer votre temps et vous donner des pépites qui vont durer max 20 minutes. Alors accrochez-vous, préparez vos cahiers de notes et plongeons dans cet épisode sur la collaboration. Si vous regardez un peu autour de vous dans la littérature sur le leadership, on parle beaucoup d'efficacité personnelle et on parle beaucoup de faire toujours plus en toujours moins de temps. On parle beaucoup de devenir la meilleure version de nous-mêmes et j'ai pas de problème avec ça. Mais finalement, on a un peu moins d'éléments pour comprendre ce qui fait marcher une bonne équipe. D'ailleurs, on le constate souvent, si vous prenez l'exemple des grandes compétitions, des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, souvent les équipes favorites se retrouvent en difficulté. Et ce n'est pas qu'elles n'ont pas les bons joueurs. La plupart du temps, individuellement, elles ont les meilleurs joueurs. Mais c'est juste que l'équipe ne semble pas réussir à prendre, comme on dit une expression surprenante, la mayonnaise ne prend pas. Quand on collabore, c'est un peu la même réalité. La réussite d'une équipe se trouve souvent dans des éléments qui sont comme invisibles. Si je devais le résumer, ce premier constat et ce constat principal, je dirais la chose suivante. Pour qu'une équipe fonctionne, ce n'est pas tellement le qui de l'équipe, mais beaucoup plus la culture de l'équipe. Je le répète, pour qu'une équipe fonctionne, ce n'est pas tellement le qui de l'équipe qui compte, mais la culture de l'équipe. En 2012, Google a lancé une recherche importante pour étudier justement l'efficacité de ses équipes. Ce projet a été mené auprès de 180 équipes et puis il a été appelé le projet Aristote parce que le philosophe grec le disait ainsi, « Le tout est plus grand que la somme de ses parties ». Alors j'aimerais prendre avec vous 5 ingrédients qu'ils ont trouvés et qui expliquent en fait l'efficacité d'une bonne collaboration, l'efficacité d'une équipe. Et moi j'ai envie de vous le proposer comme 5 clés pour une saine et efficace collaboration. 5 clés pour une saine et efficace collaboration. La première de ces clés, c'est la sécurité psychologique. Et l'idée est la suivante. Chaque membre de l'équipe peut prendre le risque de donner son avis, de se tromper, de littéralement faire des erreurs, sans que les autres ne portent un jugement sur lui ou sur elle, et sans que cela n'ait de conséquences négatives personnelles. Vous avez sans doute vécu ce moment où on demande un peu l'avis des gens, on fait un tour de table, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez une idée, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous avez une idée en tête, mais vous dites, non, c'est trop bête, je ne vais pas le dire. Ou alors, tu te dis peut-être, c'est pas possible, ils ne vont pas me prendre au sérieux, cette idée est trop folle, cette idée-là. Ou alors, je suis sûr que quelqu'un d'autre a une meilleure idée. Si tu as déjà vécu ce moment, il y a des chances, ce n'est pas la seule explication, mais il y a des chances que tu sois ou tu aies été dans une équipe où il manquait de sécurité psychologique. On peut aussi te parler du niveau de confiance qui existe au sein d'une équipe. En fait, les bonnes équipes ont un haut niveau de sécurité psychologique. Dans ces équipes, les gens osent rêver. Les gens osent, tout simplement osent. Ils osent donner des idées, ils osent partager leurs idées, mais pas seulement. Dans une équipe comme ça, en fait, c'est pas seulement ça, c'est on n'a pas peur de faire des fautes, on n'a pas peur de se tromper, on n'a pas peur, quand on s'est trompé, du regard des autres. Cet élément est le premier et le plus important des ingrédients d'une équipe qui collabore et qui dure dans le temps. Je le répète, les équipes excellentes ont un haut niveau de sécurité psychologique. Alors, il y a peut-être une question qu'on peut se poser. Dans mon équipe, si quelqu'un fait une erreur, si quelqu'un partage une idée un peu folle, un peu « out of the box », comme ils diraient les Anglais, comment est-ce que l'équipe va percevoir cette personne? C'est une bonne question à se poser. On va passer maintenant au deuxième principe, au deuxième ingrédient. Ce deuxième ingrédient, c'est la dépendance. Et là, je sais, plusieurs, vous réagissez comme épidermiquement, vous vous dites « mais non, on ne peut pas être dépendant ». Mais la réalité, c'est que dans une équipe saine, qui collabore bien et qui dure dans le temps, on a une interdépendance les uns aux autres. On a une dépendance les uns envers les autres. En fait, chaque membre de l'équipe peut compter sur les autres et les autres peuvent compter sur lui en retour. Quand quelqu'un prend un engagement de réaliser une tâche, tu peux être sûr qu'il va faire cette tâche dans le temps qui s'est donné. Et si je demande de l'aide à quelqu'un, je suis sûr que quelqu'un va m'aider, qu'on va vraiment venir à mon secours par rapport à là où je galère. Ici, en fait, on touche la dimension de l'entraide qui doit exister dans une équipe. Ce n'est pas possible d'avoir une bonne équipe sans qu'il y ait une saine dépendance les uns des autres. Sinon, on est toujours un peu maladroit, on se dit est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui, est-ce qu'il va vraiment le faire, et tu mets de l'anxiété, et ce n'est pas possible de bien fonctionner quand il y a de l'anxiété. Donc la question ici, c'est la suivante. Quand quelqu'un de l'équipe s'engage à faire quelque chose, est-ce que cette chose sera réellement faite? Si tout de suite tu penses « ah oui, mais pas lui ou pas elle », c'est possible qu'il manque un peu de dépendance dans votre équipe. Et encore une fois, je sais que c'est un terme qui dérange, là, on a envie d'être indépendant aujourd'hui, mais dans les bonnes équipes, il y a une saine dépendance. Le troisième ingrédient d'une équipe qui fonctionne correctement, c'est la clarté des rôles. Les fonctions, les objectifs, les attentes sont clairement définies et les moyens pour réaliser tout ça sont disponibles. Ça, c'est extrêmement important, en fait. La clarté des rôles, c'est fondamental. Est-ce qu'on sait qui fait quoi à quel moment? Je redonne encore une fois l'image du sport, mais imagine un peu, on va, c'est la Coupe du Monde, finale de la Coupe du Monde, on va sur le terrain et d'un coup, le gardien n'est pas sûr. Est-ce que je dois être au but? Est-ce que je dois jouer en défense? Le défenseur se dit, mais est-ce que ma place, c'est pas en attaque ou quoi? Tu vois le scénario, tu sais déjà que cette équipe, elle va perdre. C'est la même chose dans nos équipes à nous. Est-ce qu'il y a de la clarté sur les fonctions, sur les objectifs et sur les attentes pour chacun? Ce point, finalement, il se rapporte aux frontières entre la fonction des uns et la fonction des autres, aux possibilités aussi qu'on a de reconnaître et de valoriser chacun dans sa différence, et également de lever toute crainte de ne pas se marcher les uns sur les autres. Je suis sûr que tu as déjà eu ça, mais il n'y a rien de plus frustrant. On te dit « ouais, tu pourrais t'organiser pour faire ça », toi tu dis « ouais, c'est bon, je m'organise, je le fais », puis en même temps, quelqu'un d'autre le fait. Là, tu dis « mais je croyais que c'était mon rôle, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'autre est fait ». Tu te poses des questions, alors en fonction de ton caractère, tu dis peut-être « on ne me fait pas confiance », ou alors tu dis « mais j'en ai marre, ici on travaille dans le vide », et c'est vraiment frustrant. Donc ça touche cette notion de « est-ce qu'on enlève la crainte de marcher les uns sur les autres ?» Mais ça touche aussi la question de l'ambiguïté dans la communication. Est-ce qu'on a bien communiqué en fait? Parce que les équipes qui communiquent bien sont claires sur les rôles. Alors voilà la question qu'on peut se poser ici. Est-ce qu'on sait ce qui est attendu de chacun? Et est-ce que notre équipe a un processus de décision qui soit clair et efficace? C'est tellement important. Rappelle-toi, on parle ici des équipes qui marchent bien, qui collaborent bien et qui durent dans le temps. Et je te l'ai dit, le premier ingrédient, c'était la sécurité psychologique. Le deuxième, la dépendance ou la saine interdépendance entre les membres de l'équipe. Et le troisième ingrédient, la troisième clé, c'est la clarté dans les rôles. Je continue avec la quatrième clé ou le quatrième ingrédient, le sens donné à l'activité. Alors là, je sais, on est dans une ère, on est avec une génération où le sens, c'est tout le temps là. Là, tout le monde parle de sens, de sens, de sens. La réalité, c'est que chacun des membres de l'équipe aura un sentiment différent par rapport au sens, aura une attente différente, aura des valeurs personnelles différentes sur le sens. Mais ce qui est important, puisque Google a réalisé dans cette étude, c'est que chaque membre de l'équipe a le sentiment que sa fonction ou son travail fait du sens pour lui. C'est pas grave si ça fait pas de sens pour un autre. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que tu arrives à donner un sens à ton activité, à ton rôle dans l'équipe? Ce point se rapporte à la capacité individuelle à se motiver en faisant des liens de cause à effet ou d'égalité entre ses activités et son système de valeurs. Je vais reprendre deux exemples. Je vais reprendre l'exemple du foot, mais je ne sais pas si tu aimes le foot, si tu n'aimes pas le foot. Personnellement, si jamais tu ne le savais pas encore, je ne suis pas un grand fan du foot. Mais typiquement, si je devais jouer en tant que gardien, en tant que footballeur, je pense que j'aimerais bien le gardien parce que j'aime les mains, j'ai fait du basket, j'aime utiliser mes mains. Donc pour moi, ça ferait du sens. Là, j'ai l'impression de vraiment d'aider les autres, de servir les autres, d'être au bon endroit. Mais c'est sûr que l'attaquant, pour lui, ça fait beaucoup moins de sens d'être au but. Tu comprends? C'est la même chose dans une équipe. Là, je parle avec des gens qui sont dans la technique constamment. Tu sais, eux, c'est leur langage. Ils ont un jargon particulier. Ils sont dans les trucs de technique, que ce soit la vidéo, que ce soit l'audio, que ce soit les lights. C'est un truc qui leur parle. C'est une manière de voir le monde. Moi, je peux comprendre, mais ça me parle beaucoup moins. Et tu comprends, il faut qu'il y ait du sens à ce que toi, tu fais. Si ce que toi, tu fais, ça ne t'apporte pas de sens, ça va te frustrer profondément. Ça va atteindre en fait ton système de valeurs et tu vas dire ce que je fais là, ça ne sert à rien. Donc, le sens n'est pas le même pour tous, mais c'est important que chacun voit le sens de ce qu'il fait. C'est le sens donné à l'activité. Maintenant, j'ai une question aussi, comme pour les autres clés. Et la question, c'est la suivante. Le travail que je fais pour mon équipe a-t-il du sens pour moi? Tu peux poser ça la question quand tu vois quelqu'un démotivé, quand tu vois quelqu'un qui traîne les pieds, quand tu vois quelqu'un qui ne sait pas trop, dit ouais, bon, ok. Tu peux lui demander juste, est-ce que ce que tu fais au milieu de nous, ça a du sens pour toi? Parce que c'est que si la personne peut dire oui, ça a du sens, que tu as une personne qui est faite au bon endroit, pour la bonne équipe, au bon moment. J'arrive à la dernière clé, au dernier ingrédient, et c'est finalement ce qu'on a appelé en français la contribution ou bien l'impact. C'est une idée plus large, mais c'est cette idée en fait que ce que l'équipe réalise, ce qu'on fait ensemble, ça contribue à la réalisation des objectifs, à la vision, à la mission, à l'ambition de notre entreprise, de notre groupe, de notre association, de notre communauté si tu as une église. C'est ce que je fais là, je vois que ça fait une différence plus large. C'est une différence plus large, ce n'est pas seulement le sens pour moi, c'est je sais qu'on contribue à quelque chose qui fait du sens. Ce point se rapporte au cadre de pensée susceptible de fédérer des énergies dans une direction commune et d'accueillir l'ensemble. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est le sens plus large. En fait, tu as un sens personnel, mais tu as un sens aussi plus large. C'est une notion d'impact. On disait souvent que la génération Y, c'est une génération qui veut changer le monde. C'est une génération de personnes qui sont constamment indignées. Mais en fait, si tu as l'impression de contribuer à quelque chose de plus large, de participer à une mission, à une vision, à une ambition, à quelque chose qui change la donne, ça te motive profondément. Alors ici, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le travail qu'on réalise ensemble contribue à quelque chose qui a un impact? La cinquième et dernière clé, c'est l'impact ou la contribution. En guise de conclusion, ce que j'aimerais te proposer, en fait, c'est une synthèse pratique. Puis j'aimerais te rappeler, en fait, cinq questions. Tout au long, je t'ai posé des questions, puis je vais les reformuler ici parce que ces questions, elles soulignent finalement les clés et ça devrait aussi t'aider de façon pratique. D'ailleurs, petite idée, si tu as une équipe, tu pourrais discuter de ces cinq questions en équipe sans leur donner le contexte, en leur disant, on va juste se poser des questions, puis en fonction des réponses, on verra est-ce qu'on a les bons ingrédients pour être une équipe qui collabore bien et qui dure dans le temps. La première des questions, c'est est-ce que nous avons développé une sécurité psychologique? En d'autres termes, si les gens font des erreurs, s'aventurent hors des sentiers battus, est-ce que cela va affecter notre façon de les percevoir? La deuxième question, est-ce que nous avons mis en place une saine et juste dépendance ou interdépendance les uns envers les autres? Est-ce que je peux faire confiance aux gens qui contribuent à mon travail, aux gens qui collaborent avec moi, à mes collègues, est-ce que je peux faire confiance qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire dans les délais qu'ils ont donnés? Est-ce que je peux compter sur eux? La troisième question, est-ce que nous avons des structures et des fonctionnements qui sont clairs? Est-ce que les rôles de chacun sont clairs et sont connus? Est-ce qu'on a un processus de décision qui est pertinent et efficace? La quatrième des questions, est-ce que chacun trouve du sens dans ce qu'il fait? Et rappelle-toi ici, je souligne ça, mais c'est un sens individuel. Il peut être très différent pour chacun, mais est-ce que chacun trouve du sens dans ce qu'il fait? Et finalement, est-ce que chacun réalise et apprécie que son travail participe à une mission plus grande et motivante? Vous savez, quand je suis tombé sur cette étude il y a quelques années, j'ai beaucoup remis en question ma façon de faire. Et aujourd'hui encore, je suis vraiment challengé par certains de ces points, tout en étant réjoui aussi, parce que je vois les progrès qu'on a faits sur d'autres de ces points. Mon but en disant ça, ce n'est pas que tu dises « Waouh, on est tellement loin, on n'est vraiment pas bon. » Je ne veux pas te mettre la pression. Je veux plutôt te motiver en te donnant des éléments concrets où tu peux travailler avec ton équipe. Au risque de me répéter, je parle ici de mettre en place une culture saine où la collaboration est efficace et où les gens ont envie de rester longtemps. Si je prends du recul, une chose qui m'a frappé, c'est de voir comment ces éléments aussi montrent le besoin de clarifier notre relation aux autres. Pense-y un instant, mais la notion d'interdépendance, la notion de sécurité psychologique, la notion de clarté des rôles, c'est une notion où en fait, je dois travailler mon lien avec les autres. Mais ça travaille aussi notre relation à soi-même, notre relation à nous-mêmes. Est-ce que je sais quel est mon rôle? Est-ce que ce que je fais a du sens? Et finalement, ça pose la question de ma relation à la globalité, à tout. Est-ce que je participe à une mission qui me motive? Et je trouvais fascinant de voir comment ces éléments sont aussi générationnels, j'en ai un tout petit peu parlé, mais ça explique une grande partie du clash générationnel qu'on voit et qu'on analyse dans les entreprises depuis 20 ans. Il y a un clash générationnel parce que les systèmes de valeurs ont profondément été changés, chamboulés. Et là, les choses que je parle, c'est pour la génération Y et Z, c'est pour la génération montante, c'est pour tous ceux qui ont entre 15 et 40 ans. Ça, c'est les choses qu'ils recherchent. Et cette étude menée par Google, tout à fait scientifique, le met en avant. Alors, j'aimerais vite terminer avec deux constats. Le premier, c'est que les équipes moins performantes et moins stables, elles peuvent l'être pour plein de raisons. En général, la conclusion de cette étude, c'est que si tu n'as aucun de ces points, aucun de ces ingrédients, c'est presque sûr que ton équipe ne sera pas efficace. Mais une des choses qui ressort aussi, c'est l'importance d'avoir des capacités sociales individuelles pour chaque membre de l'équipe. Tu vois, être introverti, ce n'est pas tellement un problème. De la même façon que d'être orienté sur la tâche et puis sur les détails, ce n'est pas non plus un problème. Ce qui est un problème, c'est quand les gens ont des compétences sociales douteuses. C'est-à-dire que ça devient difficile de travailler en équipe quand on n'est pas à l'aise avec les autres. Ceux qui envoient des signaux contradictoires. Je croyais que tu étais content avec moi, mais en fait, dans tes remarques, tu sais, le passif-agressif, je ne sais pas trop où me situer par rapport à ça. Ou bien on est toujours dans des jeux de séduction, on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est un peu une image comme ça. Ou les gens qui manquent cruellement d'intelligence émotionnelle, les gens qui n'ont pas de sensibilité, pas d'empathie non plus, les gens qui ont des blagues sans se rendre compte que c'est des blagues pas drôles. Si tu as des personnes comme ça dans ton équipe, j'ai envie de te dire, c'est important d'aller les confronter. C'est vraiment difficile parce que ça va empêcher la sécurité émotionnelle ou la sécurité psychologique qui est, rappelle-toi, l'ingrédient numéro un. Donc, indépendamment de tout ça, c'est juste une façon de terminer cet enseignement en te disant, si tu as quelqu'un qui est maladroit socialement, fais vite quelque chose parce que les dégâts sont monstrueux. Et la deuxième chose que j'aimerais ajouter touche la question de la durabilité. La qualité de l'équipe explique aussi pourquoi les gens sont prêts à rester ou pourquoi les gens tout simplement veulent rester. Au bout d'un moment, c'est aussi lié à l'étude, puis je n'ai pas le temps de tout dire, mais la motivation de quelqu'un à continuer son travail, ça ne s'explique pas par l'argent. Souvent, on pense ça. On pense que tu sais, si je te donne un peu plus d'argent, tu vas rester, puis je te donne un peu plus d'argent, puis je te donne un bonus, tu vas rester. Mais en fait, l'étude montre que ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus le type de structure de leadership ou la personnalité des gens. Tu sais, ouais, mais lui, il est trop introverti ou lui, il n'est pas assez si. Ce n'est pas tellement ça, en fait. Ça peut avoir une influence, mais ce n'est pas ça qui fait le plus grand. En fait, la qualité de la dynamique d'équipe, notamment renforcée par les clés qu'on a vues aujourd'hui, font une énorme différence sur le long terme. Comme j'aime le dire, les gens vont peut-être venir à cause de ta mission, mais ils vont toujours rester à cause de ta culture. Et ça, il faut vraiment ne pas l'oublier. Alors voilà, merci pour votre temps les amis, je ne vais pas m'éterniser. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, rappelez-vous qu'on veut prendre aussi un épisode avec toutes vos questions, de préférence sur le travail en équipe, mais plus largement aussi. Et puis, continuez à investir dans votre leadership. À très bientôt.